nouvelle vague.
Un rendez-vous cinéma
sur le Bouquet Grandvillain.
Bienvenue dans Nouvelle Vague, l'émission du cinéma Grand Villet et au-delà. Au sommaire de ce 11e numéro et notre deuxième émission confinée, du cinéma et encore du cinéma, Flora a initié une nouvelle rubrique, Ping-Pong. Vous ferez bien une petite partie avec nous ? On vous lira ensuite une carte postale d'un confiné célèbre. Puis, Mathieu propose un café cinéma virtuel avec des nouveautés prochainement disponibles à la médiathèque de Granville. Aujourd'hui, il nous parle du film Les Voyages de Sullivan. Et on terminera avec un focus sur l'actualité bousculée des sorties cinéma dans les toiles de la Granvillaise. Bonne émission! Nouvelle vague.
C'est le ping, c'est le pong, c'est le ping-pong.
Coucou, salut Marilyn, j'espère que tu vas bien.
Ping-pong, le blind test cinéma.
Bonjour, bonsoir, chers confinés. Comme vous vous en doutez, et sûrement comme vous, si vous faites partie de nos fidèles auditeurs, on se languit d'aller se faire une toile. En attendant, on prend le temps de voir les films qu'on n'avait pas eu le temps de voir en salle sur nos petits écrans. Pour notre plus grand plaisir, et on espère aussi le vôtre, on s'est dit que ce serait chouette d'en profiter aussi pour revisiter nos classiques dans un blind test revisité. Ne pouvant enregistrer une émission ensemble dans une même pièce, on a décidé avec Marilyn de correspondre par MP3. On s'est envoyé tour à tour des extraits de bandes originales, répliques truquées et pitchs piégés de films cultes de nos bibliothèques, dans le but de les faire deviner à l'autre. Salut Marilyn, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de faire ce blind test avec toi, même si c'est à distance. Je te propose qu'on commence sans plus attendre. Dis-moi si tu reconnais le film dont est extrait ce thème.
Flora, j'espère que tu vas bien. C'est chouette ton idée de jeu, merci d'avoir lancé ça. Et puis, ça commence bien, j'ai deviné la musique d'un film que j'aime beaucoup, Édouard aux mains d'argent. C'est fou comme le compositeur Danny Elfman est associé à l'univers de Tim Burton, et inversement. Tu nous as plongé dans la magie glacée d'Edward, je te propose un autre univers et une autre météo, même si on ne quitte pas les États-Unis. Et petite coïncidence avec un indice pour toi, ce film a été rediffusé hier, lundi 13 avril, à la télévision.
Heureusement que tu m'as donné un indice parce que sinon je pense que j'aurais jamais trouvé. Grâce à mon programme télé, je sais que l'extrait que tu m'as envoyé est tiré de la BO de Paris, Texas, de Wim Wenders. Ça me fait penser qu'il faudrait que je voie la version restaurée de 2014 de ce film qui a quand même décroché deux prix à Cannes en 1984, dont la Palme d'Or. C'est pas rien. Je te propose qu'on monte d'un cran dans le blind test. Est-ce que tu sauras deviner de quel film sont extraites ces quelques répliques un tantinet truquées ?
Un philosophe a dit un jour... Le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas.
Les pharaons se faisaient enterrer avec leurs serviteurs.
Lorsque l'on meurt, souvent, on voudrait que tout s'arrête avec soi.
Mais c'est le cycle même de la vie. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs.
Salut Flora. Alors, j'ai mis un peu de temps et j'ai eu besoin d'indices supplémentaires, mais j'ai fini par trouver OSS 117, le Caire, nid d'espions, avec notre James Bond national, Jean Dujardin. D'ailleurs, j'ai lu que le personnage, issu d'une série de 250 bouquins quand même, est né avant l'espion anglais. Sauf que dans ses comédies de détournement, Michel Hazanavicius s'inspire plutôt de James Bond et des films américains pour l'ambiance, le style, avec un fond très franchouillard. Je te propose qu'on reste dans la comédie française avec deux acteurs que j'aime bien, pour une situation plus quotidienne. Comme c'est une comédie, la réalité sociologique, pourrait-on dire, est poussée à l'extrême, voire à l'absurde.
On dort où ce soir, là ?
On est mardi...
Mercredi 9.
Donc le deuxième mercredi de...
On est où, là ? On est chez moi ?
On est chez toi ?
Donc... Non, t'as sauté une bosse ?
Non, janvier, février, mars, il y a combien de jours en mars ?
31.
Donc le deuxième mercredi des mois en 31 jours, c'est chez toi, c'est chez papa.
Chez papa, mon ange.
Bonne nuit. On a trouvé un super système.
Bah ouais, ça a l'air.
Ça s'est mis en place tout seul.
Et Emma, elle s'en occupe beaucoup, alors...
Vincent, pardon.
Je me suis trompée ? Je dois récupérer le 14 du mois d'après.
Ah, ouais.
Désolée.
Emma ? Excuse-moi, ma puce, on s'est trompé. C'est chez maman ce soir. Reviens.
Coucou Marilyn, cette fois-ci j'ai tout de suite reconnu le titre du film, c'est Papa ou Maman, la comédie française dans laquelle Marina Foïs et Laurent Lafitte jouent des parents divorcés, prêts à tout pour ne pas avoir la garde de leurs enfants. Ça nous fait déjà arriver à la troisième partie du Blind Test, cette fois-ci tu vas devoir retrouver le nom d'un film à partir du pitch que je vais t'en faire. Bien sûr, pour corser le truc, j'ai omis quelques petits détails.
C'est le ping, c'est le pong, c'est le ping-pong. Le blind test de deux confinés en mal de cinéma.
C'est l'histoire d'un petit garçon qui habite avec sa mère, son frère tortionnaire et sa sœur dans un petit pavillon. Il est triste car à cause du divorce de ses parents, il ne voit plus son papa. Il se fait un ami aussi paumé que lui. Leur relation prend un tournant inattendu lorsqu'ils se rendent compte que les moindres faits et gestes de l'un se répercutent invariablement sur l'autre. Les deux amis semblent en effet être liés par une force mystérieuse.
Coucou Flora, j'aime beaucoup ton résumé d'E.T. de Steven Spielberg. Très bien vu. Je trouve le film toujours aussi fort, je l'ai vu, revu, et chaque fois je suis émue. Surtout à la fin, quand E.T. retourne sur sa planète. C'est à la fois un déchirement et en même temps un apaisement pour Elliot qui se sent moins seul désormais. À mon tour de te proposer un résumé de film légèrement simplifié. Un jeune homme s'occupe de sa mère endormie, alors que le pays dans lequel ils vivent se transforme complètement. Pour ne pas la choquer lors de son réveil, il va tout mettre en œuvre pour lui faire croire que rien n'a changé, jusqu'à redoubler d'imagination pour un simple pot de cornichons.
Coucou Marilyn, alors là c'est bien joué, tu m'as eu. Si j'avais pas un peu triché sur internet, j'aurais pas trouvé. Tu parles de Goodbye Lenin que j'ai malheureusement pas vu. En tout cas, ton synopsis m'a donné envie de le voir. Je te propose qu'on termine ce blind test auquel je te remercie d'avoir participé avec un extrait de la bande originale de ce film composé par le français Yann Tiersen. À bientôt!
Thank you.
Cela fait des années que je suis enfermé dans cette apparence hideuse, obligé de fuir le monde, reclus dans mon château. Les journées s'étirent entre la chasse à l'aube et les repas en tête-à-tête avec moi-même. Certains diraient que je vis dans un univers magique. Des bras humains tiennent les candélabres, des visages cariatides fument autour de la cheminée, les portes s'ouvrent toutes seules. Les miroirs réfléchissent pour nous, et le temps a sa propre durée. La lumière du noir et blanc fait ressortir la majesté du lieu et de mes parures, mais je suis bel et bien enfermé. La rose continue à se flétrir. Qui pourrait bien m'aimer ? Post-scriptum. Si vous venez me rendre visite, prenez le chemin de la forêt, ou bien faites comme Belle et laissez-vous transporter par le corps magique.
L'histoire de La Belle et la Bête, vous la connaissez. Mais si vous ne connaissez pas la version de Jean Cocteau, toute empreinte de merveilleux, dans un noir et blanc magnifique avec des effets spéciaux simples et poétiques, vous pouvez la visionner sur la médiathèque numérique.
La Belle, je suis la porte de votre chambre.
Nouvelle vague.
Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit.
La Nouveauthèque.
Bonjour à tous. Alors on va commencer par parler d'un film hollywoodien de 1941, Les Voyages de Sullivan, réalisé par Preston Sturges. Donc le réalisateur Preston Sturges, il s'est d'abord illustré comme scénariste dans les années 30, avant de passer derrière la caméra au début des années 40. Et d'ailleurs, c'est lui qui a lancé la vague des scénaristes devenus réalisateurs. Alors, il y a d'autres noms plus connus qui lui ont emboîté le pas. Billy Wilder, John Huston, Delmar Daves, qui a réalisé le fameux western La Flèche Brisée, notamment. Et Sturges, donc, Preston Sturges, il s'est spécialisé assez vite dans la comédie loufoque, qu'on appelait en version originale la Screwball Comedy, du nom d'un effet lifté donné à une balle de baseball. Alors c'est un genre, comme vous pouvez le comprendre, vu le nom, qui est très américain, avec des dialogues vifs et brillants, des situations burlesques, un humour sophistiqué et une représentation en général du couple et de ses contrariétés intimes, amoureuses. Et tout ça sont les caractéristiques principales de ce genre de la comédie classique. Mais avec Les Voyages de Sullivan, dont je vais vous parler maintenant, en fait, Sturges brouille un peu les pistes, il fait un pas de côté par rapport à la screwball comedy. Donc c'est un film qui est dédié, comme le dit un carton dès le générique de début, je cite, « à tous les bouffons qui tentent par leur pitrerie d'alléger le fardeau de la douleur humaine ». Donc tout un programme. Ça raconte l'histoire de John Sullivan, un réalisateur de comédie à succès qui tente de persuader ses producteurs d'aborder un genre sérieux et de se pencher sur les problèmes sociaux de ses contemporains. Alors évidemment, panique des producteurs qui poussent les hauts cris et reprochent au réalisateur de vouloir parler de choses qu'il ne connaît pas, car il a grandi, lui, dans une famille aisée et il n'a aucune conscience des problèmes du bas peuple. Alors qu'à cela ne tienne, répond Sullivan, je vais me déguiser en clochard et vivre aux côtés des hobos qui errent sur les routes à la recherche de petits boulots. Ainsi, je les connaîtrai et pourrai les représenter à l'écran. Donc voilà, c'est une situation de départ très originale que, évidemment, on va poursuivre tout au long du film. Et Preston Sturges, il envoie donc son alter ego, puisqu'il s'agit bien de ça, on a compris, Sullivan, c'est le réalisateur de comédie à succès, donc vraiment le représentant de Preston Sturges à l'écran. Donc il l'envoie à la découverte des populations modestes des États-Unis qu'il ignore totalement. Donc évidemment, beaucoup de péripéties vont l'attendre pour qu'en fin de compte, il prenne conscience que le rire est un moyen de rassembler les communautés humaines les plus diverses, d'aplanir les différences et d'adoucir la souffrance humaine. Un peu comme l'expliquait la dédicace au début du film.
Will those nearest the lights kindly rise and dim them, please?
C'est un film vraiment très original, d'un ton très singulier. Et en fait, Sturgis réussit complètement son projet de redonner ses lettres de noblesse au genre de la comédie, jugé léger, sans envergure. Et ce qui est très intéressant dans le film, donc, c'est, comme j'ai déjà un petit peu dit, la façon de mélanger les genres, puisque on oscille entre la comédie et vers la fin du film, il y a un côté presque thriller, puisqu'il y a une péripétie qui est très inquiétante pour le personnage principal. Donc je ne vous raconte pas si vous voulez garder la surprise en regardant le film. Il y a aussi un côté Americana. Alors l'Americana, c'est en fait une façon de figer l'Amérique profonde, l'Amérique des petites villes ou l'Amérique rurale, avec des communautés comme ça qui sont très installées dans des systématismes. Un côté très immémorial, en fait, l'Amérique éternelle, si on veut. Et c'est presque devenu un genre cinématographique à part entière qui a été illustré après notamment la période de la Grande Dépression. Donc quand on voit certaines scènes du film, on pense par exemple au Raisin de la colère, le film de John Ford adapté du roman de Steinbeck, qui traite là pour le coup vraiment et de façon frontale du problème de la Grande Dépression. On pense aussi à d'autres films moins connus, des films de Jacques Tourneur notamment, qui représentent donc, comme je le disais, ces communautés rurales, ces communautés modestes de l'Amérique profonde. Donc il y a ce côté Americana qui est très prégnant également. Et puis, voilà, il y a toute une dimension satirique, politique, et aussi un point de vue, un des premiers points de vue assez caustique sur le microcosme hollywoodien. Ça, on le voit notamment par le biais d'un personnage que rencontre le réalisateur Sullivan lors de ses escapades. C'est une jeune aspirante comédienne qui est déjà déçu par le miroir aux alouettes hollywoodien, et donc qui cherche un second souffle, un retour aux sources, comme un petit peu quelque chose d'utopique. Et donc ce personnage est interprété par Veronica Lake, qui était une magnifique blonde des années 40, qui a souvent joué des rôles de femme fatale dans les films noirs. Elle était très connue à cette époque, et elle était caractérisée par une grande torsade de cheveux blonds qui lui masquait la moitié du visage. C'était un peu sa marque de fabrique. Et donc un très beau personnage également qui compose un duo intéressant, un couple intéressant avec le personnage principal de Sullivan, qui lui est interprété par Joel McCrea. Alors là encore, un acteur qui est pas devenu immensément populaire, mais qui était un acteur récurrent et qui a une très belle filmographie à cette époque. Il jouait souvent dans des westerns, Joel McCrea. Donc là, c'est un petit peu aussi un contre-emploi pour lui. Et en fait, il arrive à donner une dimension très empathique à son personnage, qui fait encore une fois qu'on le voit comme ça entre la comédie et quelque chose qui ressort plus du mélodrame et qui donne vraiment une originalité au film. Donc très beau film à découvrir prochainement.
C'est soi-disant Cousteau et ses potes qui ont eu les premiers l'idée de mettre des talkie-walkie à l'intérieur des casques. Mais nous, on a inventé cette petite antenne que vous voyez ici pour qu'on puisse balancer de la musique.
L'hypnotique Brass Band avec le morceau War qui accompagne le show télévisé de César Flickerman dans la série Hunger Games. On retrouve Mathieu avec d'autres titres pour la suite du Café Cinéma virtuel dans la prochaine émission. Et on écoute maintenant Flora qui a fait le point pour nous sur les sorties prévues en salle de cinéma.
Il nous faudrait un plus gros bateau.
L'étoile de la Grand-Villaise.
Sais-tu pourquoi le phénix se tient toujours à la droite de l'empereur? C'est son ange gardien, son protecteur. Il est à la fois beau et fort. Ton devoir est d'honorer ta famille.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'étoile de la Grand-Villaise, on fait le point sur l'avenir du cinéma en France et plus particulièrement sur les films qu'on aurait dû voir et sur les événements cinématographiques qu'on aurait dû suivre ces dernières et ces prochaines semaines si la vie avait suivi son cours normalement.
James Bond.
Alors vous n'êtes pas mort?
Q, vous m'avez manqué. Il est la meilleure source dont dispose ce pays. Si vous sentez que vous perdez le contrôle,
je ne perdrai pas. Le contrôle.
La vague des reports de films a commencé bien avant la fermeture des salles, souvenez-vous. Une dizaine de jours avant la fermeture des cinémas, on apprenait le report de la sortie de Mourir peut attendre, prévue le 8 avril dernier en France. Le film sortira finalement, si tout va bien, le 11 novembre prochain.
Cause arrivage bled, vent 1 demi-mètre de frappe à 250.
Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie là.
La galérance, elle est finie.
Le dernier 007 n'était pas l'unique gros film prévu pour le printemps. Étaient aussi attendus La Daronne, Pinocchio, Fast and Furious 9, Mulan ou encore Les Nouveaux Mutants. Toutes ces sorties ont d'ailleurs été reportées avant le début du confinement.
En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé
jusqu'à nouvel ordre. La fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques.
Le couperet tombe finalement le 14 mars vers 20h. Le gouvernement annonce la fermeture jusqu'à nouvel ordre des lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. Tous les cinémas de France ferment à minuit sans savoir quand ils rouvriront. Cette annonce entraîne une seconde vague de reports. 5 jours plus tard, on apprend que le festival de Cannes n'aura pas lieu du 12 au 23 mai. Un report est d'abord envisagé en juin ou en juillet. Mais le 13 avril, lors de son allocution, Emmanuel Macron annonce finalement que l'on peut faire une croix sur les grands rassemblements jusqu'à mi-juillet. Aucune date de report n'est donc pour l'instant fixée pour le festival de Cannes et la sortie en salle de certains films doit être de nouveau reportée. On pense notamment à Adolescente, initialement prévue sur grand écran le 25 mars et déjà reportée au 3 juin. Le documentaire de Sébastien Lifshitz, dans lequel on suit le quotidien de deux adolescentes pendant 5 ans, est prometteur déjà parce qu'il a été réalisé par l'auteur des Invisibles, mais aussi parce que les critiques qu'on en a lues sont bonnes. Et puisqu'on ne peut aujourd'hui se raccrocher qu'à ça, oui, ça joue.
J'ai juste peur de ne pas réussir ce que j'entreprends.
Je sais pas, c'est parce qu'on n'a pas tous un talent. Hein.
Et là, t'as envie de pleurer. Quand tu vois ta note, t'as envie de pleurer. Putain, mec, quand je suis stressée, j'arrive plus à rien. Donc si tu veux faire ça et que j'ai zéro à cause de toi, ça va aller.
Moi, franchement, c'est la pire année de ma vie.
Adolescent, dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce, n'est pas un cas isolé. Les distributeurs n'ont d'ailleurs pas attendu le dernier discours de notre président pour commencer à décaler les sorties des films prévus cet été. Sony a reporté les sorties de SOS Fantôme, L'Héritage, Morbius et Greyhound. Paramount reporte Top Gun Maverick et Universal la suite des Minions 1. La sortie du film d'animation initialement prévue en juillet 2020 est carrément repoussée à 2021. Certains distributeurs comme Disney ont aussi choisi de déprogrammer sans annoncer pour le moment de nouvelles dates. Un choix prudent, c'est possible. On pourrait en parler pendant des heures, faire des plans sur la comète et parler des films qu'on est pressé de voir. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on fera dans la prochaine émission. Mais en attendant, on n'a qu'une chose à faire, se résoudre à être patient. Et puis si on a la chance de pouvoir rester chez nous, de disposer d'une connexion internet et qu'on le peut financièrement, on peut soutenir nos cinémas préférés et plus largement le cinéma tout entier en se faisant une toile à la maison. Le cinéma Le Select de Granville, en partenariat avec la plateforme La Toile, propose notamment une sélection de films en lien avec sa programmation, à voir sur son ordi, sa tablette ou encore son téléphone. Les films sont par ailleurs accessibles depuis le site internet du cinéma Granville. On n'a plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage et de visionnage.
Vous pourrez retrouver sur le site du Bouquet Grandvillais une liste des films qui devaient sortir en salle avec la date de report quand elle est connue. Merci d'avoir écouté Nouvelle Vague. On vous souhaite bon courage pour la suite de ce confinement. On pense à tous ceux qui nous ont aidés en prenant des risques pour notre santé. Et même si on sait que la reprise va être longue et compliquée, on a hâte de retrouver nos salles et tous les lieux qui nous réunissent. Malgré tout, de belles vagues à tous pour surfer sur le printemps.
C'était Nouvelle Vague sur le Bouquet Grandvillais.